Alors maintenant, nous allons passer à l'intervention de Peter Sinclair, qui va nous parler du projet LocuStream Open Microphones et la manière dont il a contribué à la création et à la mise en place de chaque réveil depuis 2014. Peter, est-ce que... Peter, bonjour d'abord.
Bonjour. Pardon.
Est-ce
Merci
que tu
pour l'invitation.
Mais je t'en prie. Merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'histoire du projet LocuStream et sur la manière dont il fonctionne?
Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, donc LocuStream, c'est un dispositif qui est techniquement, en fait, il s'agit d'un ensemble d'outils et d'infrastructures qui permet de mettre en place ce qu'on appelle nous des microphones ouverts, open microphones. Et donc le principe, c'est de simplement capturer le paysage sonore d'une manière permanente, a priori, en tout cas ça c'est ce qu'on souhaite, de manière permanente, et de envoyer ce paysage, le rendre disponible via l'internet en permanence. Ce sont des outils qui permettent à des gens de mettre un microphone, de l'accrocher à notre serveur. C'est aussi évidemment un serveur, et c'est des programmes, des applications, etc., qui permettent de faire du traitement audio. Alors, en dehors de toute cette infrastructure qui est plutôt technique et technologique, c'est aussi un ensemble de personnes, parce que c'est un dispositif qui est ouvert, donc participatif. Il y a les microphones sont mis en place par des volontaires, en fait, ou des gens qui sont souvent intéressés, mais intéressés parce que ils sont intéressés par le son, c'est des artistes sonores, ou alors des gens qui travaillent sur l'écologie sonore, ou encore des bioacousticiens, etc., donc qui ont un intérêt dans ce type de prise en permanence de son. Voilà. Donc, peut-être pour parler un petit peu plus de l'histoire, c'est un dispositif qui existe maintenant depuis 2006, 5 peut-être, longtemps, plus de 15 ans. Ça a évolué, en fait, à ses débuts, c'était extrêmement difficile d'avoir même le débit réseau pour pouvoir faire ce genre d'exercice. Aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup évolué, mais aussi nos développements ont beaucoup évolué. Stéphane Couzeau, qui est ici aussi avec nous, a beaucoup travaillé sur des applications qui rendent ces choses plus faciles. Et Grégoire Lauvin aussi, qui est absent aujourd'hui, mais néanmoins présent dans les technologies, a beaucoup travaillé sur des formes de microphones, etc., pour rendre ces streams, ces flux permanents.
Ouais. Alors, ce qui serait peut-être bien justement de est-ce que tu pourrais revenir sur la matérialité justement de ces micros, sur la forme concrète qu'ils prennent, parce que, comme tu le dis, le projet a maintenant presque, plus de 15 ans ou 17 ans, si je ne me trompe pas, 18 ans. Entre les premiers microphones ouverts que vous avez bricolés et ceux qui existent aujourd'hui, on a différentes formes, puisque tu parlais d'applications. Aujourd'hui, il y a l'application LocuCast qu'on peut télécharger sur Google Play ou, je crois, Apple Store. Donc, tout le monde peut l'avoir sur son téléphone portable. Et en fait, le téléphone portable peut devenir un micro ouvert avec lequel on se promène et sur lequel on peut streamer justement les paysages sonores que l'on traverse. Il me semble que récemment, Full of Noises, l'autre collectif de streamers avec lequel LocuSonus a beaucoup travaillé, a mis en place des ateliers, des workshops, qui s'étaient d'ailleurs inspirés des workshops que LocuSonus avait mis en place il y a 2 ou 3 ans pendant le Covid, pour que des artistes ukrainiens mettent en place des streambox, c'est-à-dire des boîtes de streaming, en fait, et puissent, à différents endroits de l'Ukraine, en état de guerre, retransmettre les sons, en fait, de la guerre. Alors, pas dans un sens spectaculaire, comme on le voit à la radio ou à la télévision, mais au contraire, plutôt les sens du quotidien, enfin, je veux dire, la sensibilité sonore du quotidien. Je me rappelle, il y a une œuvre magnifique, on peut la voir sur Internet. C'est cet artiste qui creuse une tranchée ou simplement cette streambox qui est placée dans une cave et où on ne sait pas vraiment ce qu'on entend autour, mais qui correspond bien à ce que vivent les gens qui sont en état de guerre, c'est-à-dire dans l'attente permanente du conflit et l'attente parfois peut amener à des expériences beaucoup plus douloureuses que les explosions de violence elles-mêmes. Mais ce qui serait intéressant, c'est que tu nous parles un peu de l'évolution matérielle de ces différents micros pour dire que finalement, c'est accessible, ça devient de plus en plus accessible, ce projet, il me semble.
Oui, alors donc en fait, là, tu évoques deux aspects peut-être du projet qui sont un petit peu différents. Un qui est l'aspect permanent, c'est-à-dire que nous avons beaucoup travaillé. Et depuis le début, en fait, pour rendre ces microphones abordables et gérables par n'importe qui. Donc, ce qu'on appelle des streambox, donc ce qui permet de brancher un microphone ouvert. L'idée, c'est qu'ils puissent tourner en permanence. Donc, ils consomment peu d'électricité, que ça ne coûte pas cher à l'achat, parce qu'on ne va pas non plus consacrer une magnifique, Macintosh à ces besoins-là. Et qui puissent être mis dans des endroits un peu extrêmes, comme tu viens de décrire. Et donc, en fait, le dernier en date, ça tourne avec des micro-ordinateurs qui s'appellent des Raspberry Pi. Et on met souvent maintenant des microphones binaurales, binauraux peut-être. qui ont forme d'oreille, parce que ça fait des jolies images, mais en dehors de ça, ça permet aussi de faire une captation qui est très, très réaliste, on va dire, dans le sens où les oreilles, la forme des oreilles participe à la perception en trois dimensions de notre espace sonore. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'était de... On a travaillé... En fait, on accueille beaucoup d'artistes aussi en résidence qui travaillent avec ce projet. Et donc, il y a eu des demandes pour rendre ces microphones portables. Et donc, la manière la plus simple de le faire, évidemment d'une façon plus temporaire pour le coup, c'est d'utiliser des téléphones portables. Et donc, on a créé des applications qui vont dans ce sens-là, qui sont aussi géolocalisables. Donc, on peut voir évoluer la position de la personne qui capture le stream sur la carte. Mais peut-être juste pour revenir sur une chose, je pense qu'il y a quelque chose d'important quand même dans ce que tu as dit, et il faut souligner, parce qu'on parle de la guerre en Slovénie, etc., c'est qu'effectivement, le non-spectaculaire est très important quelque part dans ce travail, parce que, effectivement, on sort de l'endroit de la du sélection temporelle du son. En général, le son, il est pris par quelqu'un, déjà, il y a une décision de prendre quelque chose parce que c'est, entre guillemets, intéressant. Après, il y a un travail d'édition, de montage, etc., etc. Et donc, en fait, dans le microphone ouvert, on est dans une autre pensée que cela, dans le sens où ça capte tout et en permanence. Donc, certains microphones sont là depuis maintenant des années. Et donc, ce qu'on entend quand on l'allume peut être très, très différent d'un moment à un autre. Évidemment, si là, maintenant, tout de suite, j'écoute un microphone qui est dans une forêt au Japon, on est au milieu de la nuit, on n'a plus d'oiseaux, donc ce n'est pas du tout la même chose qu'ici. Et en même temps, si je chope le moment le matin, etc., il va y avoir autre chose. Donc, en fait, c'est... permanence est quelque chose de fondamental à ce projet, et le non-spectaculaire aussi, le quotidien en quelque sorte de ces microphones est aussi quelque chose de fondamental.
Dans certaines discussions, tu disais que tu présentais ces micros comme étant doublement ouverts, et tu disais que c'était ce qui en faisait leur particularité par rapport à en tant que démarche artistique. Et donc, dans quelle mesure le fait que ces micros... Alors d'abord, pourquoi sont-ils doublement ouverts? Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui justement... Est-ce que, dans quelle mesure le fait d'être doublement ouvert leur donne une spécificité à la fois artistique et de recherche éventuellement.
Oui, donc ils sont doublement ouverts, effectivement, parce qu'on ne les ferme jamais. Et aussi, ils sont ouverts à l'utilisation pour tout le monde. Donc, on peut parler aussi d'œuvres ouvertes, peut-être. Hein, donc, dans le sens de quelque chose qui n'est pas, on ne sait pas trop, est-ce que c'est une œuvre, peut-être pas, enfin, ou peut-être que l'ensemble est une action artistique, mais peut-être que chaque élément qui est dedans ne l'est pas, enfin, ou peut-être que toutes les actions dedans sont des actions artistiques, c'est un peu difficile à dire, mais en tous les cas de figure, ce qui est important dans ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas une intentionnalité qui prime. Il y en a beaucoup, en fait. C'est-à-dire que chacun qui travaille avec ses microphones pour le projet ou pour lui-même à travers le projet a quelque part un but différent, enfin, ou une utilisation différente. Et ça aussi, quelque part, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'idée de déplacer la responsabilité de l'œuvre chez celui qui écoute, chez celui qui met le microphone d'une certaine manière, mais aussi et surtout chez celui qui écoute. C'est-à-dire le fait que ce qu'on envoie, c'est un signal audio qui n'a pas été édité, qui n'a pas été choisi, qui n'a pas été trafiqué, etc., fait que en fait, c'est dans la manière dont on va choisir de naviguer parmi ces flux audio, le pratique qu'on va développer, le fait de l'écouter le matin quand on se lève, quand on boit le café, je ne sais pas, ou alors de passer un week-end entier à faire le tour du monde, ou d'écrire en écoutant les streams, enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont pratiquées par toutes sortes de personnes. Ben donc, du coup, en fait, quelque part, ben on invente sa propre pratique d'écoute à travers ce dispositif. Donc, c'est en ça que c'est ce double monde de l'ouverture.
Voilà. Et est-ce que la création de Réveil, en fait, n'a pas été, d'une certaine manière, une forme de détournement est-ce que les micros ouverts n'ont pas ouvert les conditions de possibilité de développement de Réveil et d'autres activités comme le Sound Camp qu'on a organisé là?
Oui, bien sûr. Enfin, Réveil, en fait, est une proposition artistique parmi d'autres qui est assez importante et dont on est très partie prenante dedans parce que c'est aussi quelque chose qui a permis au projet d'évoluer, d'être connu de plus de monde, etc., donc d'avoir de plus de participants, donc c'est formidable, mais c'est le principe même du projet, c'est qu'il évolue là où il est tiré, là d'autres gens s'en emparent et prennent possession finalement du projet, c'est ce qui le nourrit et ce qui l'emmène en permanence dans différentes directions ou toutes les directions en même temps, éventuellement.
Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples justement de cette appropriation de ces micros ouverts à la fois dans le domaine de l'art et dans le domaine de la recherche?
Oui, donc dans le domaine de l'art, donc il y a beaucoup d'initiatives, donc par exemple, Stéphane qui est derrière moi en train de... Non, mais il est trop, très très focalisé sur ce qu'on dit. Il n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière, mais c'est... travaille avec un musicien, un compositeur qui s'appelle Eric M, qui utilise ses flux sonores en direct sur scène. En fait, Eric, c'est quelqu'un qui vient de la musique électronique, plutôt turntableiste, DJ, hein, donc il travaillait avec des vinyles avant. Et au bout de quelques années de cette pratique-là, peut-être arrivé à un point où son improvisation devenait peut-être systématique. Enfin, je parle à sa place, mais je me permets. Mais en tout cas, ce qu'il trouve dans les micros ouverts et ses sources, c'est des choses qui vont forcément l'étonner à un moment donné. Enfin, il ne sait pas ce qu'il va avoir quand il démarre le concert. Il ne sait pas ce qui va arriver dans son mix. Et donc, il est poussé à un autre type d'improvisation qui correspond vraiment au moment. Et en même temps, il a quand même une matière électronique à manipuler, etc. Et donc, c'est un exemple de quelque chose dont nous, on n'a pas vraiment prévu des choses qui allaient dans ce sens-là. Il y a aussi des bioacousticiens qui travaillent avec nous.
Avec Cyberforest, c'est ça?
Ben, Cyberforest, on a presque fusionné nos projets avec ceux de Cyberforest, qui sont donc un groupe de recherche japonais attaché à l'université de Tokyo et qui met en place des microphones dans des forêts depuis très longtemps et qui se sont, nos chemins se sont joints. Eux, en fait, ils partent du principe que, en fait, c'est très japonais parce qu'il y a une espèce de rapport à la nature qui est un petit peu différent du nôtre et aussi un rapport à la technologie et au naturel qui n'est pas le même non plus. Mais bon, pour aller vite, ils sont assez intéressés par l'idée que il peut y avoir des questions de soins qui sont menées à travers l'écoute de ces microphones, etc. C'est-à-dire que des gens dont des moments, je ne sais pas, post-opératoires ou des choses comme ça, puissent avoir une écoute de quelque chose de lointain, parce qu'en fait, les forêts et les montagnes sont sacrées au Japon, donc c'est un peu comme si on allait à l'église ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est pour aller très vite, mais donc il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi une question pour eux de garder des archives, donc ils enregistrent les microphones, et ils sont convaincus que un jour ou un autre, de toute façon, ces enrichissements vont avoir une valeur par rapport aux questions écologiques extraordinaires, parce qu'ils vont avoir donc 20 ans de l'évolution de la faune dans les forêts à disposition. Peut-être d'autres exemples qui sont plus proches de chez nous. Alors, donc, ce sont des gens qui ont travaillé avec Locusonus, Locus Vitae. Donc, il y a un projet qui s'appelle New Atlantis, qui est une sorte de monde virtuel partagé en ligne et qui est dédié à l'expérimentation sonore, et dans lequel on peut recevoir les flux des microphones ouverts. Donc, il y a des sortes de... Enfin, c'est pas vraiment des jeux, parce qu'il n'y a pas une règle, des règles du jeu, mais par contre, on peut construire ses propres mondes sonores dans lesquels on va pouvoir créer des paysages sonores à partir des streams qui entrent vers le micro ouvert, mais aussi avec toutes sortes de formes de traitement audio, de synthèse, etc., qu'on fait à l'intérieur de ce monde virtuel. Et donc, c'est encore une espèce de mise en réseau de ce projet. Et je peux peut-être aussi citer un autre travail qui est actuellement en cours, qui pousse le projet encore plus loin, quelque part. Je cherche le nom dans mes notes, mais... qui est réalisé par quelqu'un qui est actuellement en résidence chez nous, qui s'appelle Hugo Skurto. Ouais. Et donc, il appelle le Deepscape transversal. Dans le Deepscape transversal, en fait, on applique ce qu'on appelle du deep learning, ou ce qu'on connaît plus couramment sous le nom d'intelligence artificielle, au microphone ouvert. Donc, en fait, Hugo a pris des systèmes informatiques qui sont normalement dédiés à créer de la musique pop, on va dire, pour aller vite. Donc il s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer si je leur donne quelque chose qui n'est pas musical, qui n'est pas qui n'a pas des structures comme ça reconnaissables? Et donc, en fait, il a passé un certain temps à récolter des sons de partout dans le monde de ces microphones, qu'il a donné à manger à un système de apprentissage profond. Et donc maintenant, on a un nouveau flux qui apparaît et qui est, c'est un flux fictif et qui est généré à partir de ce modèle qui est une sorte de paysage sonore mondial non existant et synthétique. Voilà, donc c'est quelques exemples comme ça de projets qui existent.
Alors il nous reste 1 minute 30. Est-ce que tu penses que tu pourrais rapidement nous dresser les grandes lignes du futur de ce projet? Est-ce qu'il a une échéance? Est-ce qu'il a un avenir?
Alors échéance non, dans le sens où on poursuit et on continue. Évidemment, je pense aussi que c'est quelque chose qui est quelque part très fragile dans son ensemble, dans le sens où tout est éphémère. En fait, c'est pas comme quand on fait une œuvre monumentale ou un 1% qui va devenir une œuvre publique. Là, dès qu'on coupe l'interrupteur, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas d'archives, en fait, pour ce qui concerne Locutionus, parce qu'on n'enregistre pas. Donc, il y a cette fragilité, et en même temps, tant qu'il évolue et il y enflue, je pense qu'il va continuer. Aujourd'hui, donc, on a des projets d'avenir. On va participer très bientôt à un grand projet qui est mené par des bioacousticiens qui consiste à faire des prises de son dans toutes les forêts en France, ou au moins 300 forêts en France. Et donc, nous, on va participer en mettant en place des microphones ouverts. On met quelque part de plus en plus des microphones dans des lieux où il y a un intérêt écologique d'écologie acoustique. Il y a aussi un intérêt qui apparaît, qui est le fait de pouvoir aller écouter des endroits où on ne peut pas peut-être y aller facilement. Donc des endroits qui sont lointains, qui sont par exemple au bout d'un vallée. Donc on a aussi un projet, disons-le, de mettre un ou voire deux microphones ici dans la vallée de la Roya.
Oui, un à Pont-Riche et l'autre à La Chapelle.
Voilà. À La Brigue.
À La Brigue, oui.
Et qui devient aussi un terrain de jeu pour nous sur nos projets. Voilà.
Merci beaucoup, Peter, pour ton intervention et pour la présentation du projet Locusteam Open Microphones.
Je vous en prie, merci pour les questions.
Mais je vous en prie. Et donc, avant de passer aux prochains intervenants, on va faire une petite pause avec Yoav Yaron.